VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Abidjan, 14h à Bangui, bienvenue à notre journal. Soudan du Sud, l'arrivée du chef de l'ex-rébellion Riek Machar dans la capitale Juba, où il est censé prendre ses fonctions de vice-président, élément incontournable de l'accord de paix, a été de nouveau repoussé. Selon William Ezekiel, un des porte-parole de l'ex-leader rebelle à Juba, l'ex-rébellion invoque de nouveau des problèmes logistiques. Violence au Congo-Brazzaville, la France a demandé aujourd'hui que des institutions internationales comme l'ONU et le Comité international de la Croix-Rouge fassent la lumière sur la situation dans le pays, où l'armée est accusée par l'opposition de s'en prendre à des civils dans la région du Poul dans le sud. Lors d'un point de presse ce mardi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Romain Nadal, a appelé au respect des populations civiles et demandé que l'accès humanitaire aux personnes affectées soit garanti par les autorités. Toujours concernant le Congo-Brazzaville, Amnesty International dénonce les autorités congolaises. L'organisation des droits humains basée à Londres accuse les forces de sécurité gouvernementale d'utilisation excessive d'armes meurtrières dans des zones résidentielles. L'explication de la chercheuse d'Amnesty International, région Afrique centrale, Hilaria Allegrodi.
Bombarder des zones résidentielles où il y a des populations qui y habitent, c'est une violation grave. Un des témoins nous a rapporté qu'au moins 30 personnes ont été tuées entre les villages de Villa et les villages de Soumouna, et également par rapport au déplacement massif des populations, c'est-à-dire que dans les villages qui ont été affectés par les bombardements, les populations ont fui, ces villages sont à présent désertés et les populations ont trouvé refuge dans les zones environnantes, dans la brousse ou même à Brazzaville.
Il y a Allegrodi, chercheuse d'Amnesty International, région Afrique centrale. RCA maintenant, l'Union européenne a officiellement lancé une mission de formation de l'armée centrafricaine qui prendra le relais de l'opération française Sangaris avec les forces de l'ONU présentes sur place pour stabiliser le pays après 3 ans de conflit. La nouvelle mission, qui pourrait compter jusqu'à 200 hommes, ne devrait pas être opérationnelle avant l'été. Elle est censée succéder à une mission européenne de conseil aux forces armées centrafricaines dont le mandat expire en juillet. La nouvelle mission sera basée à Bangui et opérera pour une période initiale de 2 ans, selon un communiqué publié à l'issue du vote des ministres européens de la Défense réunis à Luxembourg. Et toujours concernant la Centrafrique, le président centrafricain a effectué une visite au Vatican, une reconnaissance du rôle joué par le Saint-Siège pour ramener la paix en RCA. Faustin Archange Touadéra a été reçu lundi par le pape François. Dans un entretien accordé à nos confrères de Radio Vatican, le président Touadéra est revenu sur la place de la justice dans la réconciliation nationale en RCA.
La justice est aussi le ciment de cette réconciliation. Il faudrait penser que les communautés doivent se réconcilier. Le pardon est donc, c'est la clé. Il faut se pardonner. Mais il faut aussi se pardonner sur la base de la justice parce qu'il y a eu des victimes, donc qui doivent se plaindre et que la justice doit faire son travail. Nous, de notre côté, nous pensons vraiment que notre justice soit une justice transparente. Il n'y aura pas d'influence politique.
Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra dans un entretien accordé à Radio Vatican. Au Tchad, verdict hier dans l'affaire qui oppose le docteur Albi Sati Saleh Al-Azam au ministère public. L'activiste tchadien des droits de l'homme écope lui aussi de la même peine que les 4 leaders de la société civile arrêtés pour la même cause. Nous signale de N'Djamena notre correspondant André Kodmajingar.
Arrêté le 4 avril dernier pour l'organisation d'une manifestation interdite, le juge en charge du dossier, Ndjigoto Moïse, a requalifié l'infraction à une tentative d'attroupement non armé. Pour cette infraction, Dr Albi Sati Saleh Al-Azam, porte-parole adjoint de la plateforme Ça suffit, est condamné à 4 mois avec sursis comme ses 4 compagnons de lutte. Maître Kemnelum Djiraibi Delphine, porte-parole des avocats de la défense, s'insurge contre cette décision et interjette l'appel.
La décision dit qu'ils ont disqualifié pour revenir à la tentative de provocation à un attroupement non armé. Donc vous voyez vraiment que c'est du tâtonnement. On va, on essaie ici, ça marche pas, on revient essayer là. Mais c'est avec la liberté des gens qu'on joue. Et ça, c'est vraiment dommage pour notre justice et pour notre pays.
Commentaire en privé dans les QG des organisations de la société civile qui ont eu maille à partie avec la justice. Selon Manga Jean Bosco, porte-parole adjoint de la coalition Trop c'est trop, la décision du juge est une tentative d'obtenir cette condamnation afin de les empêcher d'exercer leurs droits constitutionnels. André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Gambie, trois associations de défense des droits de l'homme réclament une enquête indépendante sur la mort en détention de Solo Sandeng, un opposant au régime de Yahya Jammeh dans le pays. Human Rights Watch, Amnesty International et Article 19 réclament aussi la libération du dirigeant de son parti, Ousseynou Darbo, et d'autres membres militants incarcérés en Gambie. Idriss Fall a joint à Dakar Fatou Djang Sangor de l'association Article 19.
Solo a manifesté jeudi 14 pour des réformes électorales avec ses collègues de l'UDP. La manifestation a été violemment réprimée et par la suite, il a été arrêté. Deux jours après, on apprend qu'il est décédé en détention.
Et apparemment, d'autres leaders de son parti sont en état d'arrestation?
Oui, plus d'une vingtaine de personnes sont arrêtées. D'autres personnes ont subi des violences pendant ces trois derniers jours.
Et la mort de Sandeng, vous demandez quoi? D'autant que ce n'est pas la première fois qu'il y a des opposants tués en Gambie, non?
Ah, bien sûr que cesse l'impunité, cette brutalité des forces de l'ordre sur l'instruction du président. Et l'autre chose, que toute la lumière soit faite sur ce cas pour que ça arrête une bonne fois. Et aussi, par ailleurs, le chef d'un parti de l'opposition a été aussi arrêté depuis le 16. Il réclamait la libération des détenus et puis que la lumière soit faite sur le cas de son collègue Zendeng, qui aussi nous d'abord est arrêté depuis samedi 16.
Et vous pensez que Yahya Jammeh prêtera une oreille à vos appels?
Il est obligé. Ce qui se passe en ce moment est inadmissible, que des personnes demandent simplement la réforme d'un processus électoral, surtout des parties prenantes, des opposants qui demandent que les réformes soient faites, qu'on les brutalise à ce niveau. Je pense que ça ne doit pas rester impuni.
Et d'autant que les élections sont prévues en décembre, non?
Bien sûr, et tout cela inquiète parce que le climat préélectoral s'est déjà détérioré. Et les réformes, c'est des réformes iniques, des réformes injustes, ces réformes décourager les partis d'opposition à prendre part effectivement. Ils ont augmenté la caution de plus de 500 000 dollars. Ils ont imposé à ce que tous les partis puissent avoir des sièges dans différentes localités, dans différentes circonscriptions. Mais aussi, ils ont empêché à ce que des personnes qui n'habiteraient pas en Gambie, des Gambiens qui sont dehors, qui puissent prendre part aussi aux élections en tant que candidat. Tout ceci montre que le régime n'arrête devant rien et pousse le bouchon jusqu'à son extrême. Et il est temps que la communauté internationale, notamment africaine, se saisisse de cette affaire de la Gambie pour que Yahya Jammeh soit rappelé à de meilleurs sentiments. Il bafoue toutes les règles. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, la Gambie reste vraiment la tache noire et les répressions ne s'arrêtent pas du tout.
Fatou Djang Sangor de l'association Article 19. Actualité hors d'Afrique maintenant, le pape François a ramené avec lui de son avion au Vatican trois familles de réfugiés syriens musulmans, 12 personnes au total, qui avaient échoué sur l'île grecque de Lesbos en passant par la Turquie. À Rome, en Italie, ces invités du pape ont déjà été pris en charge par l'association Sant'Egidio. Plus de précisions sur la démarche du chef de l'Église catholique avec le père Janvier-Marie Gustave Yamayogo, chargé de l'Afrique et du secteur francophone au secrétariat pour la communication du Vatican.
C'est un choix d'ailleurs fondamental pour le pape qui a dit qu'il appelle l'Église à être comme un hôpital de campagne après une guerre pour soigner la souffrance des personnes. Donc on ne peut pas y voir justement un aspect seulement politique, politicien. Non, c'est vraiment le rôle même de l'Église, hein, et effectivement, la dimension politique, c'est que cela souligne très fortement et donne honte aux politiques qui ont en charge la gestion, effectivement, de vivre ensemble. Et c'est une faillite de l'humanité, une faillite de la solidarité qui est dénoncée en acte par le fait même que le pape il se rend sur place. Hein. Il a serré la main à 300 personnes différentes. Et comme il dit dans l'avion qu'il ramène, ces 12 personnes réfugiées tirées au sort représentent, comme disait Mère Teresa, une goutte d'eau dans l'océan de la misère. Mais c'est déjà cette goutte d'eau.
Le père Janvier-Marie Gustave Yamayogo au Vatican. Et pour terminer, les primaires présidentielles américaines, les électeurs de l'État de New York votent aujourd'hui dans la primaire, au cours de laquelle la démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump espèrent conforter leur avance dans la course pour l'investiture de leurs partis respectifs comme candidats à la présidence au scrutin présidentiel de novembre. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.